La fabrique politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble. Bienvenue dans la fabrique politique, l'émission qui met en lumière la mécanique des politiques publiques, les jeux d'acteurs, les rouages de l'ombre de notre monde commun. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'action humanitaire. Depuis la naissance de la Croix-Rouge après la bataille de Solferino en 1863, jusqu'aux récentes pérégrinations de l'Aquarius, en passant par la naissance de Médecins sans frontières en réaction à la tragédie du Biafra en 1968, le mouvement humanitaire n'a cessé de se développer et de se complexifier. Il a traversé des périodes fastes et des graves crises, des moments de gloire et des scandales retentissants. Aujourd'hui, les organisations humanitaires font partie du paysage mondial. Pour citer Jean-François Ruffin, elles sont devenues à la fois une industrie et une autre forme de diplomatie, plongées dans des relations internationales plus imprévisibles et chaotiques que jamais. Voici par exemple une archive de 1993 où l'on entend Ronnie Broman, qui était président de Médecins sans frontières à l'époque, évoquer les difficultés de son ONG en Somalie.
Ronnie Broman, bonjour. MSF a quitté la Somalie il y a quelques jours déjà en critiquant ouvertement l'ONU. Vous pensez qu'il y a vraiment une dérive, comme on dit, du mandat de l'ONU en ce moment ?
Ah oui, je ne le pense pas seulement, je le constate tous les jours. Il y avait au départ un engagement militaro-humanitaire. Il est devenu de moins en moins humanitaro, si je peux dire, et de plus en plus militaire. C'est aujourd'hui inacceptable. Des troupes qui sont engagées au nom des principes humanitaires, au nom de la morale, tirent sur des manifestants civils, tirent sur des hôpitaux, arrivent même à agresser involontairement, bien entendu, des équipes humanitaires, des journalistes. C'est vraiment inacceptable et je crois qu'il fallait taper du poing sur la table, au moins pour éviter que ça ne se reproduise plus.
En deux mots, vous partez pour ne pas être associé, dites-vous, à une opération militaire.
Nous partons pour deux raisons. Parce que, d'une part, l'urgence vitale est maintenant dépassée. Heureusement, la famine est derrière nous, pour des tas de raisons, y compris celle d'ailleurs due à l'intervention militaire, mais également parce que la famine avait déjà été résorbée avant cette intervention. Parce que les risques que courent nos équipes du fait de l'amalgame avec les soldats sont de plus en plus grands. Avant, nous risquions des balles perdues, des éclats perdus. Maintenant, nous risquons directement l'hostilité d'un certain nombre de groupes armés qui nous confondent avec les militaires.
Mais franchement, on est moins en sécurité maintenant que pendant la période de famine, alors que les gens avaient faim, alors qu'ils sortaient dans la rue.
C'est paradoxal, mais c'est vrai. On est moins en sécurité tout simplement parce qu'avant, c'était les risques d'une guerre dont les conséquences ne s'adressaient pas à nous. Nous étions respectés en tant que membres d'organisations humanitaires. Aujourd'hui, des groupes armés nous confondent avec des soldats, nous confondent avec une armée d'invasion, comme le disait très bien Valérie Fourniou dans votre reportage. Et nous sommes donc directement pris pour cible. Un véhicule de Médecins sans frontières a été agressé à 3 reprises sur 80 km en venant de Merka et se dirigeant vers Mogadiscio. C'est donc le signe qu'il y a vraiment des problèmes de sécurité. Mais, compte tenu de l'énorme afflux de blessés, ces derniers jours, près de 1000 blessés ont afflué dans les hôpitaux. Nous sommes en train, aujourd'hui même, de renvoyer une équipe chirurgicale avec des conditions de sécurité un peu améliorées.
Avant, quels étaient vos rapports avec les chefs de guerre comme Aïdid, dont on parle beaucoup en ce moment ?
Ils ont toujours été très compliqués, parce que chaque chef de guerre voulait récupérer pour lui le bénéfice politique et matériel de l'aide humanitaire. Mais ce que l'on n'a pas toujours très bien compris, c'est qu'il y avait une marge de négociation. C'est que nous pouvions faire des pressions en jouant avec les clans, les rivalités, et nous arrivions d'une part à faire respecter la sécurité de nos équipes, d'autre part à acheminer l'aide là où elle était le plus nécessaire, et enfin à déployer nos équipes, nous, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge internationale, et bien d'autres encore, sur l'ensemble du territoire. Donc l'aide humanitaire était possible, et l'action militaire n'a absolument pas aidé, je crois que c'est cela dont il faut être conscient, n'a absolument pas aidé les équipes humanitaires à faire leur travail.
Ronnie Broman, je vous remercie.
Alors, que se cache-t-il derrière l'image d'Épinal du vaillant médecin sauvant seul les enfants d'Afrique, tel Romain Duris dans L'Arnaqueur, une image légèrement machiste, par parenthèse, pour un univers où les femmes sont désormais aussi présentes que les hommes. Une image surtout loin de la richesse des missions et des acteurs et des actrices de l'humanitaire, loin aussi des circuits de financement publics et privés ou des délicates relations qu'entretiennent les organisations non gouvernementales avec les pouvoirs en place, que ce soit dans les pays qui pourvoient de l'aide et dans ceux qui la reçoivent. Nous allons parler de tout ça avec notre invité, Mathieu Bichet, médecin, qui travaille dans l'humanitaire depuis une quinzaine d'années et occupe aujourd'hui les fonctions de responsable médical d'une cellule géographique chez Médecins sans frontières au centre opérationnel de Paris. Bonjour Mathieu Bichet.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions. La première, et pour commencer, ce que je propose à nos auditeurs et ce que je te propose, c'est de plonger directement sur le terrain, commencer par là, en pleine mission d'urgence humanitaire. Prenons l'hypothèse du déclenchement d'une crise quelque part dans le monde, climatique ou militaire. D'abord, comment une ONG comme MSF débarque sur place ? J'imagine que ça commence par des repérages. Qui est désigné pour aller regarder, faire le constat de ce qui se passe et faire des repérages ? Ça commence comment ?
Alors, en fait, il y a déjà deux situations un peu différentes, c'est-à-dire que soit Médecins sans frontières est déjà implanté dans le pays, on travaille déjà sur place. Donc, dans ce cas-là, c'est souvent les équipes dans le pays qui vont se déployer et puis aller constater la situation. Ou alors, comme ça arrive quand même assez souvent aussi, c'est Médecins sans frontières n'est pas présent. Mmh. Et dans ce cas-là, il faut effectivement à partir des équipes du siège. À partir du siège, on envoie une équipe sur place. C'est ce qu'on appelle l'exploration. Donc,
d'accord.
Et donc là, il s'agit d'une petite équipe qui va effectivement définir déjà les besoins, analyser la situation et commencer déjà définir les ressources qui vont être nécessaires pour intervenir.
Et de quels moyens on va avoir besoin, quoi.
Voilà, exactement.
D'accord. Et ensuite, donc, j'imagine, si le besoin est identifié, qu'une équipe se constitue. Bon, là, j'imagine que là aussi, les situations sont très variables, mais pour donner un petit peu un aperçu à nos auditeurs, une équipe type dans une zone d'intervention humanitaire, il y a qui dedans ?
Alors, effectivement, c'est comme tu dis, c'est assez variable parce que entre des grosses catastrophes naturelles comme un tremblement de terre en milieu urbain, si on prend l'exemple de Haïti en 2010 par exemple, où là d'emblée on sait que c'est d'une ampleur exceptionnelle, etc. Donc là on va mobiliser des équipes assez nombreuses et assez complètes finalement dès le départ. Par contre, parfois, on a peu d'informations sur la situation. Il s'agit de déplacements de population dans une zone de conflit. On ne sait pas combien il y a de personnes.
Ah, des réfugiés dans des camps de réfugiés.
Voilà, exactement. Et donc, dans ces cas-là, on va envoyer une plus petite équipe. Et en général, cette petite équipe, elle va être constituée de médicaux, forcément, parce que on est une organisation médicale avant tout. Donc, quand on dit médicaux, c'est des médecins, mais c'est aussi des infirmiers. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on va avoir dans cette équipe un coordinateur, qui peut être médical ou non, d'ailleurs.
Coordinateur, c'est une fonction à part entière, c'est autre chose que...
C'est une fonction à part entière. Parfois, on peut cumuler plusieurs fonctions quand c'est nécessaire, mais sinon, c'est une fonction à part entière, coordinateur de terrain, coordinateur d'urgence, en l'occurrence. Et puis ensuite, bien sûr, les personnes qui accompagnent cette équipe, ce sont des logisticiens, donc ils vont s'occuper de tout ce qui est transport, énergie, même de...
Énergie, ça veut dire quoi, par exemple ?
Alors l'énergie, ça veut dire, par exemple, si on intervient, s'il est prévu d'intervenir, on va avoir besoin d'électricité pour alimenter des appareils.
Des appareils médicaux aussi, ou...
Une base, tout à fait, tout à fait, et ça peut être une base, etc. Donc la logistique va s'occuper de ces aspects-là, et également même de pouvoir accommoder l'équipe, et puis s'il faut installer une base, installer même un hôpital, etc.
Et c'est eux qui vont par exemple s'occuper de loger l'équipe aussi
Oui, voilà, tout à fait.
Ça, c'est la logistique. Et c'est quoi la différence avec l'administratif, alors ? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des aspects financiers.
Voilà, tout à fait. On en voit aussi, même dans le cadre, puisqu'on parle toujours de l'exploration, mais on en voit aussi des personnes qui vont être en charge de l'administratif, parce qu'assez rapidement, on va avoir besoin aussi éventuellement d'embaucher des personnes sur place. On va avoir besoin aussi de constituer des documents qui vont être, par exemple, des documents d'accord avec
de partenariats locaux,
de partenariats avec le ministère de la Santé, etc. Donc toutes ces activités là,
ça relève de l'administratif,
voilà, et puis tout ce qui est financier aussi, de mettre à disposition les ressources financières, pour les équipes, etc. Donc en fait, soit l'équipe d'exploration, assez rapidement, elle va arriver sur les lieux et puis elle va constater que il n'y a pas lieu d'intervenir. Et à ce moment-là, l'information est transmise assez rapidement. Et puis, ça s'arrête là, ils rentrent, tout simplement.
Et sinon, ils configurent l'équipe, ils demandent les moyens.
Exactement. Et sinon, déjà, tout de suite, se met en place ce qui va constituer après une équipe d'intervention. Et donc, le noyau, finalement, à partir de cette équipe d'exploration, est déjà en place.
D'accord.
Et elle va se développer en fonction de l'ampleur.
Et alors, tu as souligné un point qui est important, c'est la question des embauches locales. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément en tête. Dans une équipe type, si tant est que ça existe, mais dans une équipe type, on trouve plutôt des expats ou des locaux, C'est toujours un mixte. Comment c'est On imagine alors, là, l'image d'Épinal des Européens qui débarquent partout dans le monde, mais en fait, c'est surtout des locaux qui travaillent.
Oui, tout à fait. Alors, c'est souvent un mixte. C'est souvent un mixte. Encore une fois, on revient à ce que je disais au départ, c'est-à-dire si on est déjà sur place. Si on a déjà des activités dans le pays, on travaille déjà avec des collègues nationaux, des gens qui ont été embauchés, qu'ils soient médicaux ou non. On revient un peu avec la même type de classification de métier, on va dire. Et donc, ces personnes-là vont souvent participer à l'exploration parce qu'ils connaissent le terrain, ils parlent la langue, etc. Et ils font partie de l'équipe. Et puis, ils vont être accompagnés avec des expatriés.
D'accord. Et c'est tous des professionnels ou il y a aussi des bénévoles dans les missions ? C'est ça que je remarque.
Alors, ça, donc...
ça dépend des ONG, peut-être.
Disons que, là, je peux parler que pour Médecins Sans Frontières. Ouais. En fait, donc, nous, on a un statut qu'on appelle le statut de volontaire, c'est-à-dire que c'est des expatriés, en fait. Ouais, ouais. Hein, donc, quel que soit finalement leur niveau d'expérience, etc., et leur parcours, les volontaires, ils ont ce statut-là. Parfois, on a bien sûr des salariés aussi.
Parce que volontaire, ça veut dire quand même avec une forme de rétribution, c'est pas complètement bénévole ou c'est un peu intermédiaire entre bénévole.
Voilà, c'est des politiques un peu de ressources humaines, que je suis pas très au fait maintenant exactement de ce qu'il en est, mais le statut de volontaire, c'est en fait les expatriés qui partent sur le terrain. En revanche, le personnel qu'on embauche sur place,
c'est des salariés classiques,
etc., des CDD ou des CDI, etc.
Donc il y a un peu ces deux statuts qui cohabitent entre des volontaires qui ont une rétribution et des salariés.
Oui, c'est ça.
Juste, vous parliez tout à l'heure, tu parlais du poste de coordinateur. Effectivement, c'était une question que je me posais, c'est qui dirige sur place ? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui, au niveau d'une mission, va être un peu la figure, la pierre angulaire, celle qui coordonne tout.
Voilà, tout à fait. Ça c'est certain. Il y a toujours effectivement un responsable en fait. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs en fonction des niveaux. Alors, si on sort un petit peu du contexte de l'urgence, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un responsable au niveau du pays. Alors souvent, on appelle ça chef de mission du pays en capitale. On va appeler ça chef de mission. Et donc, ce responsable-là, il a aussi à ses côtés, il a un responsable médical qu'on va appeler un coordinateur médical. Pour le pays, toujours pour le pays. Un responsable RH, un responsable financier, etc.
D'accord.
Logistique. Et donc, cette équipe-là, qui est basée généralement en capitale, va gérer plusieurs projets s'il y a plusieurs implantations de Médecins Sans Frontières dans le pays. Et donc, au niveau des projets,
qui eux seront délocalisés un peu partout.
Voilà, qui sont là où il y a les bénéficiaires, en fait, donc les hôpitaux, les centres de consultation, de vaccination éventuellement, etc. Et donc, tout c'est au niveau des projets, on retrouve le même type d'architecture avec un responsable terrain, un responsable médical de terrain, etc.
D'accord.
Et donc, la chaîne de communication se fait en suivant un peu ces lignes-là.
D'accord.
Il y a toujours un référent. Ça, c'est indispensable.
Et du coup, est-ce que, parce que c'était une autre question que je me posais, sur le terrain, alors j'imagine que cette coordination centrale a un rôle, est-ce qu'il y a un effort systématique qui est fait de coordination avec les autres ONG qui sont là ? Et comment ça marche ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a par exemple quelqu'un qui est responsable de la coordination avec les autres ou est-ce que c'est un peu chacun qui, avec des interlocuteurs, par exemple les médecins parlent avec les médecins des autres ONG, les logisticiens avec les autres logisticiens ? Comment ça s'organise cette coordination ? Parce qu'on imagine des terrains où tout d'un coup il y a 15 ONG qui débarquent et est-ce qu'il y en a qui prennent des spécialités et autres ?
Alors effectivement il y a des corps de métier qui vont se parler entre eux parce que il y a des aspects techniques et puis par exemple effectivement si on travaille dans un endroit et on est pas loin d'une organisation telle que Médecins du Monde où on va parler évidemment avec les médicaux là-bas, on va échanger ça c'est certain, mais la coordination plus générale va se faire au niveau des responsables, donc à la fois au niveau du pays et puis à la fois au niveau du terrain. C'est souvent un peu de toute façon c'est un travail d'équipe en général, donc on peut avoir des initiatives par corps de métier bien sûr, mais aussi c'est en général une équipe qui va se coordonner avec d'autres acteurs. Et ça peut être d'ailleurs le ministère de la Santé avant tout, c'est toujours le ministère de la Santé. Ah,
les autorités politiques locales qui assurent la coordination entre les...
Oui,
les...
tout à fait.
Okay. Okay.
Enfin, ils n'assurent pas forcément la coordination, mais en tout cas, ça va être l'interlocuteur privilégié à notre niveau, c'est le ministère de la Santé, toujours en premier lieu. Et puis, ensuite, on va évidemment se coordonner avec d'autres organisations pour assurer le meilleur service aux bénéficiaires, c'est sûr.
Ok. On reviendra un petit peu plus tard sur la question des liens, effectivement, avec les responsables politiques. On va bientôt faire une pause. Juste une dernière question avant la pause, première pause musicale. Un point sur la question de sécurité. On imagine bien tous les risques du métier sur place, que ce soit des risques sanitaires en cas d'épidémie ou des risques en termes de sûreté en zone de guerre. Comment on se prémunit de ça quand on est une mission sur place? Comment on fait attention à ne pas exposer, finalement, les volontaires et les salariés?
Tout à fait, c'est une grosse question ici. Hein. On passe beaucoup de temps sur ces questions-là, évidemment, beaucoup d'énergie. Déjà, il n'y a jamais de risque zéro, ça c'est certain. Donc, la première chose, c'est que les volontaires qui partent, le staff national, enfin tous ces gens qui travaillent pour nous doivent être conscients des risques qu'ils prennent. Ils ont aussi, la liberté de ne pas les prendre. Et évidemment, tout ça, c'est des choses qui sont largement discutées. Les gens sont briefés. On explique aussi. Les risques qui sont liés à des comportements, des attitudes qui ne seraient pas adaptées finalement. Et donc il y a toute cette partie de préparation de l'individu, on va dire. Et ensuite sur place, ça c'est le rôle du référent, donc du chef de mission à son niveau et du responsable de terrain, du coordinateur, on va dire, de projet, pour donner le titre exact, coordinateur de projet, qui va être responsable de la sécurité, qui va lui décider, il va analyser son environnement,
il va évaluer et...
Voilà.
Il a une responsabilité explicite là-dessus, c'est vraiment lui qui...
Oui, c'est vraiment lui qui est le responsable. Il peut déléguer certaines choses à des membres de son équipe, comme la logistique par exemple, mais il va être le détenteur de celui. C'est celui qui va sentir un peu son environnement et puis évaluer les risques et puis échanger en permanence avec son équipe. D'accord. Et donc à ce moment-là, on a pas mal de choses à mettre en place. Hein. Il faut être identifié comme MSF, souvent, en tout cas, la plupart du temps. Et puis, en fait, c'est tout le travail de réseautage, de discussion avec les différents groupes armés qui sont présents, essayer d'expliquer toujours notre action. Et puis, c'est souvent notre action médicale qui permet de qu'on soit accepté, d'ailleurs.
De légitimer la présence.
Tout à fait.
Ok, merci beaucoup Mathieu. On fait une petite pause musicale avec Israel Vibration, Liberty in the Hood. Et on se retrouve juste après dans la fabrique politique.
Subway track.
Vous êtes sur Radio Campus, c'est la Fabrique politique. Aujourd'hui, on parle du fonctionnement des organisations humanitaires avec Mathieu Bichet, médecin et responsable médical d'une cellule géographique chez MSF. Alors Mathieu, on a commencé par parler de qui fait quoi sur le terrain. Évoquons maintenant l'organisation générale de l'ONG. Et donc prenons l'exemple de Médecins Sans Frontières. Le siège de Médecins Sans Frontières, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, il y a qui au siège? C'est quoi les fonctions d'un siège? À quoi ça sert?
Alors les fonctions d'un siège... En fait, oui. Bon, alors les fonctions d'un siège, on va dire que c'est déjà MSF, c'est quand même une grosse organisation, donc le siège, il est là pour à la fois piloter, on va dire les opérations, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les opérations, c'est tout simplement les interventions sur le terrain, etc. Et puis les sièges aussi, c'est tout ce qui est gestion des ressources, donc les ressources. À tous les niveaux, on va dire. Hein.
Donc, ressources humaines, finances. Aussi,
voilà. Et puis le support. C'est-à-dire, on va produire des recommandations.
Une recommandation, ça peut être. C'est plutôt à destination des gens qui sont sur le terrain pour savoir comment faire face à telle ou telle situation, c'est ça?
Oui, voilà. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc, il y a toute une fonction comme ça de support aux missions, support au projet. Et puis, bien sûr, après, c'est aussi là que se définissent les grandes politiques de MSF, la voix de MSF aussi au niveau international.
Ah, le plaidoyer, par les choses comme ça.
Voilà, par exemple, le plaidoyer, effectivement, la communication, le plaidoyer, tous ces aspects-là. Donc, les fonctions, un siège, c'est assez divers. Hein, c'est comme...
Il y a combien de personnes, par exemple, au siège de Médecins Sans Frontières?
Alors, donc déjà, il y a plusieurs sièges à Médecins Sans Frontières, donc c'est ça qui est un peu compliqué, parce que c'est une grosse organisation. Donc, mais on va dire qu'on a... Il y a 5 sièges opérationnels, c'est-à-dire 5 sièges dans lesquels on pilote ces opérations sur les terrains. Mais finalement, il y a dans le monde à peu près 25.
Parce que les 5 sièges dont tu parles, ils ne sont pas tous en France?
Non, alors, il y a celui de Paris, et puis après, il y a 4 autres qui sont basés en Europe. Donc,
d'accord. Voilà. Et tous, ils ont des fonctions dont tu parles, c'est-à-dire le support, la gestion des ressources, le plaidoyer. Les 5 travaillent sur ces éléments-là.
Voilà, mais bien sûr, pour complexifier un peu les choses, il y a aussi un bureau international, etc. Donc il y a beaucoup de
missions. C'est quoi ça, un bureau international? C'est-à-dire qu'il est par-dessus tous ces gens-là?
Alors, c'est pas par-dessus réellement, mais il est là pour coordonner une seule voix dans certaines circonstances, etc. Donc, les opérations sont indépendantes dans ces cinq sièges.
À la gestion des opérations, chaque siège gère les siennes.
Okay. Ça permet de la flexibilité, de la réactivité, etc. Et puis, mais bien sûr, on travaille ensemble.
Mais ça veut dire que, par exemple, MSF, disons, Suisse, peut envoyer une équipe dans un pays où il y a déjà MSF Belgique?
Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, tout à fait. Donc voilà, et parfois c'est des équipes conjointes aussi, hein, donc c'est pas forcément
les c'est pensé les ensemble. Quoi.
Voilà, tout à fait.
D'accord, donc, et du coup dans un siège, par exemple, à Paris, il y a combien de personnes?
Alors, je n'ai pas le nombre exact, mais je dirais qu'il y a facilement 500 personnes qui travaillent ici.
Ah oui, c'est énorme. Ah,
oui, d'accord. Oui.
Et les grands métiers? Les grandes familles de métiers, c'est quoi? Il y a surtout quoi? Il y a surtout des administratifs, des médicaux, il y a quoi? Des communicants, des...
Alors là, on va retrouver des départements différents. Donc dans chaque département, il y a un décor de métiers différent. Ouais. Donc bien sûr, il y a un département des opérations. Donc voilà, ça c'est la conduite des opérations. Là, on trouve des équipes qui sont assez mixtes, puisqu'on retrouve un peu les représentants de chaque métier. Ouais. Et puis il y a le département médical qui est très important. Donc là où il y a beaucoup plus de médicaux, bien sûr, donc de spécialistes. Des spécialistes sur, la chirurgie, la tuberculose, enfin chaque thématique un petit peu, la pédiatrie, des choses comme ça. Et puis ensuite, on va avoir un département RH qui va être lui-même découpé en différents
corps de métier.
Corps de métier, le recrutement, le suivi des parcours, les formations, etc.
Peut-être d'ailleurs quelque chose d'assez spécifique à l'humanitaire, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est peut-être eux qui gèrent la question du retour des expatriés, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément hyper évident, une fois que tu as passé quelques mois ou quelques années sur le terrain, de revenir et de se réinsérer. C'est eux qui gèrent ce genre de problématique, par exemple.
Oui, voilà, on suit les expatriés quand ils partent sur le terrain, ils sont suivis aussi par en fonction de leur corps de métier, c'est un peu comme ça que c'est organisé, et puis ils sont suivis par des responsables, en fait, de ce qu'on appelle les responsables de poule, peu importe le nom, et qui va suivre leur parcours au fur et à mesure de leur mission.
Et après aussi, c'est-à-dire que cette réadaptation au contexte européen, par exemple, c'est aussi ces personnes-là qui vont essayer de le traiter.
C'est une première étape, alors... Ouais. Ça fait partie des choses effectivement qui sont discutées à leur niveau, hein. Mais c'est sûr que après une fois que les, enfin, à partir du moment où les gens ne repartent plus avec MSF, ils sont plus nécessairement suivis. On fait pas un suivi après,
ouais, de très long terme.
Peut-être exception, mais on fait pas un suivi au-delà. Par contre, oui, ces choses-là sont discutées.
Sont discutées parce que j'ai mis que
individuellement, bien sûr.
D'accord. Alors, si on reste sur la question des métiers et de voir un peu à quoi ça ressemble, on va prendre ton exemple. Toi, ta journée type, par exemple, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi, à la fonction d'un coordinateur comme toi ?
Alors, j'ai toujours du mal moi-même à définir ma journée type parce que ça change un peu.
Ton moi type ou ton.
C'est variable. Alors. C'est difficile à dire. Bon, déjà, je suis effectivement médecin, mais je suis pas clinicien, en tout cas tant que je suis chez Médecins Sans Frontières, où c'est très rare, on va dire, je suis pas clinicien.
Tu soignes pas des gens tous les jours, quoi.
Non, voilà, ouais. je suis dans plutôt ces aspects de coordination et ouais. dans le département des opérations. Et donc, moi, je vais avoir des interlocuteurs privilégiés sur les pays, et en l'occurrence en capitale, c'est les fameux coordinateurs.
Ah, toi, tu es en interlocution avec ces fameux coordinateurs.
Voilà, plutôt.
D'accord, plutôt.
Okay. Enfin, coordinateurs médicaux qui sont, on va dire, qui travaillent auprès de ces chefs de mission.
Ah oui,
dont on a parlé
médical.
Tout à l'heure. C'est un peu compliqué.
Quitte à aller les voir de temps en temps, c'est-à-dire que tu restes pas forcément que au siège, tu vas aller voir ces gens-là régulièrement pour voir comment ça se passe.
Oui, voilà, tout à fait. On va les voir, on va discuter. Alors, on se parle, bien sûr, par mail, hein, parce qu'on énormément de mails ici, il faut traiter beaucoup d'informations, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Mais et puis ensuite on se téléphone bien sûr, et puis on va se rencontrer.
Tu fais des petites sessions sur place
ou tout à fait. On discute des problématiques. Et moi c'est beaucoup plus les aspects donc médicaux bien sûr, donc la stratégie médicale. C'est pas forcément. Alors il y a le côté prise en charge, la prise en charge des patients, la qualité de notre prise en charge, comment on traite ces patients-là. Mmh. Et puis, il y a aussi la stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va choisir de développer, où est-ce qu'on va s'implanter, comment on va le faire. C'est des aspects.
Et sur quel problème on va travailler plus particulièrement ? Est-ce que ce sera, voilà. Ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que ce sera plus tout d'un coup, tiens, une épidémie ou une catégorie de population ou un truc
tout à fait.
Donc ça, c'est toi qui le définis en lien avec les gens qui sont sur le terrain à gérer le médical, quoi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, évidemment, c'est encore un travail d'équipe, comme vous avez compris, à plusieurs niveaux. Hein, tu as le côté terrain, ensuite coordination, etc., ce qu'on appelle mission, et puis il y a le siège. Donc, tout ça, on travaille ensemble. Mais disons que moi, je vais être beaucoup plus dans ces problématiques-là.
D'accord. Et alors, finalement, qui décide ? Parce que ce qu'on n'a pas vu encore, c'est ce fameux siège et ces fameux 5 sièges de Médecins Sans Frontières. Il y a des patrons. Qui dirige ces boîtes-là ?
Alors, au niveau des sièges, c'est toujours par département. Donc, le département qui est finalement le plus pour lequel les autres départements se mettent à disposition, c'est le département des opérations. C'est-à-dire, c'est le département principal, c'est la conduite des opérations. Et donc là, on a un directeur des opérations, une directrice en l'occurrence, des opérations qui finalement, elle va arbitrer les décisions.
D'accord.
Mais avant que ça arrive à son niveau, il y a tout un tas de
D'accord. Et est-ce qu'au-dessus d'elle, il y a quelque chose qui ressemblerait à un conseil d'administration ou des personnes qui ne seraient pas forcément d'ailleurs salariées, auraient une voix au chapitre, une présidence et des administrateurs ? Okay.
Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, on a dû mentionner dès le début, mais Médecins Sans Frontières, c'est une association.
D'accord.
Donc, qui fonctionne avec le règlement d'une association. C'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration qui est élu par des membres associatifs et un président. Le président, à ma connaissance, il nomme le directeur général.
D'accord.
Et ensuite, le directeur général va constituer son équipe avec, bien sûr, le directeur des opérations, le directeur médical, de la communication, logistique, etc. Et on revient avec tous ces...
Donc, il y a quand même une gouvernance associative forte.
Effectivement... Ouais. Effectivement, le conseil d'administration qui se réunit une fois par mois, et puis en assemblée générale également une fois par an, va donner un certain nombre d'orientations au travers de son président, etc. Et en l'occurrence aussi chez Médecins Sans Frontières, il y a toujours eu aussi une culture où le président va intervenir, va donner est une voix aussi.
Oui, oui, c'est ça, une voix sur la place publique. Et alors, la question des, je pensais toujours sur ces histoires de qui dirige, qui décide, sur la question des citoyens qui donnent, parce que on sait que Médecins Sans Frontières, c'est une association qui vit beaucoup de la générosité du public. Un citoyen, une citoyenne qui donne à MSF, elle a ou il a une voix au chapitre, à un moment ou un autre, c'est quelque chose qui participe d'une certaine manière à la vie de l'association.
Alors les donateurs, évidemment, c'est très important pour nous, puisque c'est grâce à eux qu'on peut conduire ces opérations. Alors les donateurs, bien sûr, on les informe, on est en permanence, il y a toute une politique où on va, une conduite où on va, qu'on se donne de toujours informer sur nos opérations, d'où ce qu'on fait de leur argent en définitive. Ouais. Mais par contre, le donateur n'est pas décideur. C'est les membres associatifs qui vont orienter.
D'accord.
Éventuellement, s'il y a des orientations à prendre. Et puis, au quotidien, bien sûr, c'est au niveau de la direction des opérations.
Et est-ce que des citoyens donateurs, ou des citoyens tout court d'ailleurs, peuvent intervenir même hyper ponctuellement d'une façon ou d'une autre dans la vie de l'ONG, ou il y a quand même ceux qui sont à l'intérieur et pas forcément de lien direct avec les citoyens?
Alors oui. Alors là, je suis pas.
Peut-être localement, peut-être sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a.
Oui, alors par exemple en France, on a des antennes, on a des antennes locales.
Ah d'accord.
Je sais pas combien il y en a. Je pense pas qu'il y en ait à Grenoble, mais il y a des antennes locales où souvent là il y a des initiatives, notamment en ce moment par exemple pour la problématique des migrants, etc. Alors souvent il y a une capacité d'initiative
locale en lien avec des citoyens à travers ces antennes là.
Voilà. Okay. Après, je vais être honnête, c'est pas tout à fait la spécialité
de MSF.
À MSF. Après, on a des bénévoles aussi qui viennent de temps en temps au siège, mais c'est souvent, c'est des fois des gens qui ont eu un parcours aussi sur le terrain. Et puis, voilà, donc c'est possible, mais c'est pas le cœur de métier. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, parce que la difficulté, le défi, c'est la gestion aussi de tous ces bénévoles, parce qu'il faut du coup du monde pour gérer ses bonnes volontés, etc. Donc c'est pas forcément évident, et ça doit s'inscrire après dans des choses qui sont organisées pour, en fait.
D'accord. Voilà. Très bien, on va faire une deuxième petite pause musicale, Mathieu. Cette fois, on va écouter les VRP.
C'était un garçon bien élevé, issu d'une famille skinhead. Mais il avait bien mal tourné au grand désespoir de son père. Il avait jeté sa matraque, vendu ses docks et puis son cran, et même les superbes loutchaks. Il avait eu pour ses 15 ans. Skinhead aux cheveux longs, c'est l'émancipation. Sous son cuir chevelu, la tendresse a vaincu. Son bomber a poussé, ses tatouages aussi. Les fleurs ont remplacé le serpent et l'épée. C'est parti au Népal, où les skins ne sont pas légion. Avec son tatouage mort-vache, les Indiens l'ont pris pour un con. Il est revenu au grand air, en pleine Ardèche, il prend son pied. Avec le seul truc qui sache faire, les trois gamés en macramé. Skinhead aux cheveux longs, c'est l'émancipation. Sous son cuir chevelu, la tendresse a vaincu. Son bomber a poussé, ses tatouages aussi. Les fleurs ont remplacé le serpent et l'épée. Le drapeau tricolore
qu'il avait dans sa chambre a perdu son éclat. À grands coups d'eau de Javel, il fait pleurer sa mère et ne veut plus entendre que du Ravi Shankar ou du Alan Stivell.
Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8, c'est la Fabrique Politique. On retrouve Mathieu Bichet, médecin chez Médecins Sans Frontières. On parle avec lui du fonctionnement de l'humanitaire. Alors on a commencé par partir sur le terrain avec Mathieu, ensuite on est allé au siège de Médecins Sans Frontières, au siège au pluriel, parce qu'on a appris qu'en fait il n'y en avait pas un, il y en avait cinq, et en plus il y avait une coordination internationale. Et maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu politique, si tu veux bien, Mathieu. D'abord, éludons une question. Est-ce que Médecins Sans Frontières a une couleur politique ? Est-ce que ça arrive que des ONG s'affichent de droite, de gauche, avec des obédiences politiques ?
Alors nous, bien sûr, on n'a pas de couleur politique, ça c'est sûr.
D'accord.
Après, pour d'autres organisations, moi, j'aurais un peu de mal à répondre pour elles. Hein, donc ça
mais ça peut arriver ?
Je ne peux pas vraiment répondre précisément à la question par rapport à droite ou gauche, mais ce qu'on voit souvent sur le terrain, c'est des organisations qui ont une connotation religieuse.
Ah oui.
Donc, notamment des grosses organisations aussi américaines qui ont une connotation religieuse, évangéliste ou autre, etc. Donc, ça on le voit. Puis,
du coup, ils portent des valeurs qui peuvent être presque politiques.
Des organisations musulmanes qui sont là. Donc, c'est politique, ça, on le voit pas tellement en tant que tel. Hein.
C'est juste que des valeurs religieuses peuvent amener à des positionnements politiques. Je pense tout bêtement à des histoires sur les questions, d'IVG ou des choses comme ça. J'imagine que ça va entraîner des positionnements particuliers.
Oui, possiblement, quoi. Mais voilà, après ça, c'est difficile.
Habituellement, une ONG, théoriquement, elle n'est pas d'obédience politique. Quoi.
Ça, je pense que ça, après, c'est dans ses statuts. Mais en tout cas, Médecins Sans Frontières.
C'est très clair. C'est dans les statuts d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc.
C'est une bonne question.
Pardon, je voulais pas te faire un piège.
Probablement. Non, mais oui, bien sûr. Oui. C'est pas connoté ni politiquement, ni religieusement, ni. Voilà. Ouais. Donc, c'est certain.
Ok, mais ça signifie pas, donc on est d'accord qu'on s'engage pas. Et notamment, j'avais une question sur la notion de droit d'ingérence qui est apparue avec la naissance de Médecins Sans Frontières. C'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore défendu par Médecins Sans Frontières, cette notion de pouvoir ingérer, entre guillemets, dans les affaires d'un pays quand il y a une situation humanitaire.
Alors, non.
D'accord.
C'est pas, en tout cas, moi, je suis pas un grand spécialiste de ce genre de questions, mais il y a des gens qui répondront mieux que moi, mais non. Non, ce n'est pas du tout. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend souvent parce que on l'a beaucoup entendu
à une époque.
Il y a un certain nombre d'années, etc. Mais en fait, c'est un terme, il faut comprendre, ça fait référence à, finalement, c'est un concept qui fait référence à une notion de droit et c'est le droit d'un État d'intervenir dans les affaires d'un autre État pour des raisons dites humanitaires.
Ouais.
Alors, là, on voit tout de suite que Médecins Sans Frontières n'a rien à voir là-dedans, parce que nous, ne sommes pas un État.
Ah, c'est un État à État ? D'accord. Et donc,
à ma connaissance, ce terme-là, il se base là, sur ce concept-là. Et puis, en ce sens, déjà, on voit que pour nous, ce n'est pas un terme qu'on utilise du tout et qu'on peut même s'approprier, puisque ça n'a pas de sens pour nous.
D'accord.
Voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Mais non, ce n'est pas un terme qu'on utilise.
Voilà. Mais ça n'empêche pas MSF, au-delà de la question du terme, d'intervenir dans des pays ou dans des zones où vous n'êtes pas forcément bienvenu au départ.
Alors, ça arrive, effectivement. Alors, oui, donc, bon, dans l'immense majorité des cas, donc, on va intervenir dans les pays où on est autorisé à intervenir.
D'accord.
Ça fait partie des, on en parlait tout à l'heure, des accords qu'on fait avec souvent le ministère de la Santé, mais aussi d'autres ministères, d'autres autorités locales. Et puis, parfois, on intervient dans des zones où soit le gouvernement n'est pas représenté en tant que tel, donc,
Ah oui, c'est ça. Des zones où il n'y a pas de gouvernement, en fait, comme en Somalie, par exemple, j'imagine, ou en Libye.
Alors, oui, d'une certaine mesure, oui. Ou alors, en tout cas, les gouvernements n'ont pas forcément le contrôle du territoire.
Et alors, comment vous faites dans ces cas-là?
Alors, encore une fois, ces cas sont assez particuliers, rares, parce que même dans ces cas-là, on arrive quand même à avoir des sortes d'autorisations, puis après, on négocie l'accès à des zones. Mais ça arrive, c'est encore une fois, c'est peu fréquent, mais ça arrive qu'on intervienne donc, dans des zones où là, on est clandestin. Mais on va dire, dans ces cas, de ce cas de figure-là, il y a toujours une autorité locale qui finalement nous accepte. Sinon,
sinon vous ne pouvez pas rester. Ouais.
Donc voilà, le cas.
Mais c'est pas forcément des autorités officielles au sens du gouvernement, de la capitale, etc.
Si on voit la Syrie, par exemple, en Syrie, par exemple, le gouvernement de Bachar al-Assad, n'a jamais autorisé l'intervention de MSF dans les zones qu'il contrôle. D'accord. En revanche, on intervient. Dans des zones qui ne sont pas contrôlées par
ces... Encore aujourd'hui.
Voilà. Oui.
D'accord. Ouais, donc ça peut arriver. Et donc ça veut dire que là, on a des relations politiques un peu acrobatiques dans les pays parce qu'il faut jongler avec différents interlocuteurs selon les zones. J'imagine qu'il doit y avoir des moments où ça marche et d'autres, il faut vite repartir, des checkpoints, des passages. Ça doit être assez spécial.
Oui. Il y a des zones qui sont assez complexes à gérer. Là, je pense... par exemple, un projet en Centrafrique, dans un endroit où il y a environ 4 ou 5 différents groupes d'armées. Donc il faut...
faut être copain avec tout le monde, c'est ça ?
Il faut être accepté par tous. Il faut aussi négocier des accès, négocier aussi la sécurité pour nos patients. Et ça, les équipes font ça en permanence.
Oui, qu'on ne vienne pas kidnapper les patients dans les hôpitaux, par exemple.
Tout à fait, ou les tuer, quoi.
Et alors, ça me fait penser aux forces armées, parce qu'effectivement, il y a les forces politiques, mais il y a aussi souvent, vous intervenez là où il y a des forces armées, d'ailleurs parfois des forces de paix, tout simplement. Là aussi, j'imagine qu'il faut nouer des relations avec des commandants, des colonels, etc., enfin des responsables de l'armée. Ça se passe comment, ça, en général?
Voilà, c'est souvent, encore une fois, c'est le coordinateur de projet, le terrain, qui va développer son réseau, et puis finalement, aller expliquer à toutes ces forces armées, sous ces groupes en présence, ces groupes armés, leur expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. On va être toujours très transparent. On va leur montrer que on est là pour les soins à la population, les soins à quiconque est blessé, et que voilà, la condition pour nous d'exercer la médecine, de pouvoir soigner ces gens, c'est d'être un minimum en sécurité et de qu'on respecte notre espace et notre accès aux patients. Et donc ça, c'est un travail énorme.
J'imagine. Qui demande beaucoup d'expérience et de finesse diplomatique.
Qui demande de l'expérience, de la méthode aussi, et puis beaucoup de réseautage, beaucoup de temps.
Oui.
C'est très délicat, c'est parfois très frustrant aussi. Parce qu'on peut être amené...
Oui, parce qu'à être mis à l'écart de zones hyper importantes...
C'est ça. Donc, des fois, on n'a pas accès à des zones, bien sûr, soit de la part d'une force gouvernementale ou non gouvernementale. Et puis, parfois, on doit aussi négocier avec des groupes armés qui sont eux-mêmes responsables des actions, etc. Donc,
c'est très compliqué. Je pense aussi à d'autres acteurs qu'on peut rencontrer maintenant. J'ai l'impression que de plus en plus, peut-être que c'est une image aussi, c'est les grandes fondations privées. Alors l'image, c'est celle de la fondation Bill Gates. On a l'impression qu'ils ont des milliards, qu'ils interviennent partout. C'est aussi des gens qu'on croise sur place. Et comment on fait avec des gens qui ont ce type de force de frappe budgétaire?
Alors, sur place, sur les terrains... Oui, on peut toujours trouver un représentant de telle fondation, etc. Bien sûr, je pense que... Mais souvent, ces fondations, notamment la fondation Bill Gates, va financer des programmes, alors soit des organisations... Enfin, en l'occurrence, alors je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ils vont financer souvent des programmes de l'Organisation mondiale de la santé, ils vont financer d'autres organisations qui vont...
Ils ont des relais, en fait, ils ont des opérateurs.
Il y a toujours des relais, enfin, souvent des relais, on va dire.
D'accord.
Donc, sur le terrain, on ne les voit pas forcément, mais c'est plutôt au niveau des sièges qu'il peut y avoir des négociations à ce niveau-là, en fait.
D'accord. Donc ça se passe plutôt au niveau des sièges. Et si je reste un instant sur le terrain, quand même, est-ce que ça peut arriver de se retrouver face à face avec des ONG avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord? Ça arrive, ça? Et comment on fait dans ces cas-là si on, vraiment on n'est pas du tout sur la même ligne?
Alors, c'est difficile de dire pas du tout sur la même ligne, parce que souvent les organisations, bon, ils interviennent pour, on va dire, le bien de la population. Ouais, d'ailleurs, ouais, on va schématiser comme ça. Donc. Ouais. Alors, bon, mais bien sûr, il va y avoir des objectifs différents et puis des façons de faire différentes. Ouais. Donc, c'est plutôt ça qu'on rencontre, c'est-à-dire des façons de faire différentes.
Des manières d'agir. Ouais.
Et voilà, donc des fois, oui, on ne va pas être d'accord, parce que par exemple, on va se retrouver dans une zone où telle action, par exemple, est supposée être financée déjà par une organisation, par une fondation, ce qu'on veut. Mais nous, on voit sur le terrain, on constate que les soins ne sont pas... que ne sont pas là, que les intrants, ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les médicaments, par exemple, ne sont pas disponibles, etc., etc. Donc, on est souvent confronté, et ça, c'est une réalité, hein, à cette situation-là.
D'accord.
Donc, des politiques qui ne sont pas, en tout cas, des ambitions ou des choses qui
sont... Et donc là, il faut négocier, il faut essayer de trouver sa place, essayer de trouver une façon
d'avancer. Ben, là, alors, ça dépend des situations, mais des fois, nous, on va être... amené à simplement décrire la situation, dire écoutez, vous dites que vous avez financé telle chose, que les médicaments sont disponibles, on revient de ces centres de santé,
mais y a pas.
Les armoires sont vides, d'accord. Ils n'ont rien reçu depuis 5 mois, voilà. Donc ça arrive.
Un rôle de lanceur d'alerte en quelque sorte.
Oui, voilà. Quand on pense que ça a un intérêt de le faire, on va le faire, bien sûr.
D'accord. Juste un mot sur le rôle des sièges, du tout. On en a déjà parlé, hein, mais de cette histoire de plaidoyer. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose que tu identifies chez MSF comme les autres, c'est-à-dire cette capacité de construire et porter un discours avec auprès de gouvernements, de l'Union européenne, de l'ONU. Ça, c'est vraiment un des rôles que MSF estime important.
Oui, voilà, ça c'est un des, on va dire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais un des piliers un peu de notre engagement, c'est ça. C'est de pouvoir communiquer, dénoncer des situations.
Ouais, en partant des situations finalement, c'est ça un peu la marque de fabrique, c'est-à-dire dire voilà alors, ce qui se passe, quoi.
Oui, alors de manière générale, nous on va dénoncer des situations dans lesquelles on est, situations dans lesquelles on intervient, ou alors éventuellement dans des situations dans lesquelles on peut pas intervenir. Par exemple, on va pas avoir accès dans telle zone de guerre. Donc ça, on peut très bien le dénoncer, zone de conflit par exemple, ou on peut pas intervenir sur telle épidémie.
En espérant que ça puisse débloquer les choses grâce à des interventions politiques.
Oui, c'est-à-dire que pour nous, le plaidoyer, il doit toujours, c'est ma perception, il doit toujours aboutir à une amélioration de la situation pour ces populations.
D'accord.
On considère.
Donc c'est assez concret quand même.
Oui, alors après, on peut avoir des choses qui sont plus larges. Par exemple, on peut faire du plaidoyer sur l'accès, par exemple, à des médicaments moins chers. Par exemple,
d'une manière globale.
Voilà, on peut travailler sur ces questions.
MSF bosse aussi sur ces questions de politique générale.
Voilà, exactement, ou l'accès à tel vaccin, ou l'accès à...
Et donc ça, c'est plutôt, j'imagine, des spécialistes, des experts au siège qui vont construire des argumentaires là-dessus.
Exactement.
C'est d'autres types.
Exactement. Okay. Donc il y a différents types de plaidoyer.
D'accord.
Et à chaque fois, ça s'adapte un petit peu à la situation, et on va rencontrer effectivement des
leaders,
des politiques, des institutions, des pays, des fondations, des organisations,
pour convaincre,
etc.
Oui. Ok, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Une petite dernière question, Mathieu Bichet, avant de conclure. Alors, ce qui est étonnant avec les ONG humanitaires, c'est que dans un monde idéal, on pourrait rêver que ça n'existe plus, qu'on n'ait plus besoin de vous. mais de manière plus réelle, on ne se dirige pas tout à fait vers là. Vous sentez des évolutions quand même dans la manière de travail des ONG? Il y a un truc qui devrait se passer dans les années à venir? Vous avez le sentiment qu'il y a un truc qui va bouger, ou c'est une forme de continuité, malheureusement une sorte de répétition des mêmes crises?
Alors, il y a plusieurs questions en fait dans cette dernière question. C'est difficile de donner des perspectives.
Mais par exemple, chez MSF, il y a un truc sur lequel vous bossez particulièrement, en vous disant tiens, ça, on va essayer de faire bouger ça dans les années à venir. Il y a un truc qui vous marque là-dedans.
On a beaucoup de sujets, beaucoup. Donc il y a des sujets médicaux, et puis d'autres de plaidoyer, on vient d'en parler. Ouais. Mais il y a des sujets médicaux qui sont portés. Alors, j'ai pas d'exemple là tout de suite en tête, mais voilà, c'est parfois un peu technique, mais il y a des sujets qui on va se battre, notamment, je sais pas, l'accès au traitement pour la tuberculose dans le monde.
Typiquement, on se dit, tiens, MSF, on se dit, tiens, sur 5 ou 10 ans, on va essayer de creuser un sillon sur la question de la tuberculose et on va essayer de le poursuivre sur le long terme. Ça, c'est des axes de long terme, ça existe aussi.
Tout à fait, des axes de long terme.
C'est pas que d'urgence, finalement.
10 ans, c'est un peu difficile puisque le monde bouge vite. On a des plans d'action, des plans stratégiques comme ça sur 5 ans, sur 4 ans plutôt. Et donc, on se donne un peu des objectifs. On voit un peu où on aboutit. Ouais. Mais après, oui, bien sûr, ce monde-là, il évolue. Ouais. Et donc, les conflits évoluent aussi. Les choses. Est-ce que c'est plus complexe qu'avant ? Moi, je ne saurais pas le dire.
Il y a peut-être de l'instabilité qui s'accroît, instabilité politique et puis instabilité climatique. J'imagine que c'est un truc qui doit aussi vous questionner
toute cette question
du dérèglement climatique.
Ouais. Voilà. Et puis après, il y a aussi l'émergence de nouvelles maladies, Là, on a bien sûr l'exemple d'Ebola qui existe depuis très longtemps, mais qui a pris, qui peut prendre
et qui bouscule
forme
du coup
les interventions. Voilà, une ampleur plus importante. Il va y avoir aussi l'émergence des maladies chroniques, on va dire, dans les sites, dans les zones urbaines, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec l'évolution de la comment on peut dire ça,
la démographie et puis
la démographie et puis l'épidémiologie aussi.
D'accord. Donc une question d'anticipation et de se fixer des objectifs.
On essaye, c'est pas facile parce qu'on est aussi dans le réactif. Donc c'est un peu on essaie de se doter des moyens d'avoir un peu ça.
D'accord.
Cette possibilité là.
Ok, écoutez, merci beaucoup Mathieu pour tous ces éléments, c'était super intéressant parce qu'effectivement ça donne à voir encore une fois ce principe de cette émission, ce qui se cache vraiment derrière ces organisations dont on a souvent en tête la surface, la façade. Merci beaucoup Mathieu.
Merci.
Pour nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la chronique classique pendant ce temps à Veracruz. Après une dernière chanson, c'est Mos Def Mathematics.
Poco, 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 poco. You know the deal. This is me, though. Beats by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, future shot. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, 9 planets faithfully keep an orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno, my ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway, you're Myrtle, hip hop past all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor, better keep your alarm set, streets too loud to ever hear freedom ring, say it back in with your sleep, it's dangerous to dream, but your chain cats get they chip, you dead now, killing fields need blood to graze the cash cow, it's a numbers game but shit don't add up somehow, like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits ever seen my pockets, like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear, like nearly half of America's largest cities is 1/4 black, that's why they gave Ricky Ross all the crap, 16 ounces to a pound, 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you no longer free, 40% of Americans own a cell phone so they can hear everything that you say when you ain't home, I guess Michael Jackson was right, you are not alone, rock your hard hat black as you in the terror dome, full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens placing life numbers, crack mothers, crack babies and AIDS patients, young bloods can't spell but they can rock you a PlayStation, this new map is whipping motherfuckers ass, you wanna know how to rhyme, you better learn how to add, it's mathematics.
The mighty most deft.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here?
Almighty Most Def. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here?
It's one universal law, but two sides to every story. Three strikes and you bitten for life, mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly drills. 8-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? He on the hill pumping krills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next stripe. When the average minimum wage is 5.15, you best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics from your phone, your zip code, the SSI digits. The system break man, channeling women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics.
Mighty Most Def.
It's simple mathematics.
Check it out.
I revolve around science.
What are we talking about here?
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8, c'est la Fabrique Politique. Après avoir exploré l'univers de l'humanitaire avec Mathieu Bichet, médecin chez Médecins Sans Frontières, c'est l'heure de la chronique Pendant ce temps à Veracruz. Alors je vous ai déniché deux articles sur un sujet que je trouvais éclairant à sa manière, on va dire. L'acteur Steven Seagal a été nommé émissaire par la Russie pour renforcer les liens avec les États-Unis. Alors cet acteur qui a la nationalité russe depuis 2016 a même été plus précisément nommé représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères pour être chargé des liens humanitaires russo-américains, a annoncé la diplomatie russe le 4 août. Sa tâche est d'assister au développement des relations russo-américaines dans le domaine humanitaire, y compris la coopération dans le domaine de la culture et de l'art. Il s'agit d'un poste ressemblant à celui d'un ambassadeur de bonne volonté de l'ONU et qui ne prévoit pas de rémunération. Cette annonce donc du mois d'août intervient alors que les relations entre Moscou et Washington sont plombées par les divergences persistantes sur le conflit en Syrie, l'Ukraine ou encore les accusations d'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016. Steven Seagal, qui est ceinture noire d'aïkido et qui a connu son heure de gloire dans le cinéma d'action hollywoodien des années 90, a notamment joué dans Nico ou Piège en haute mer, pour ceux qui s'en souviennent. Il avait été accusé d'abus sexuels en novembre 2017 par l'actrice Portia de Rossi dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein. Et il s'est vu accorder la nationalité russe par le président Poutine. Et puis un peu plus tard dans le courrier international, toujours sur cette histoire, donc le 26 septembre, un mois et demi après, on apprend que cet acteur, qui a été donc nommé représentant spécial sur les questions humanitaires, ne serait pas contre diriger, devenir gouverneur d'une région russe. Donc on lit que l'acteur américain en visite à Vladivostok pour un festival de cinéma a déclaré qu'il prendrait volontiers la tête de la région du Primorié, qui est la terre de ses ancêtres. J'aimerais mieux connaître le Primorié, en voir davantage, a-t-il déclaré lors de ce festival, après avoir rappelé que ses ancêtres paternels étaient originaires de cette région de l'extrême-orient russe. La question n'est pas anecdotique, la région du Primorié se retrouve en effet actuellement sans gouverneur, les résultats des élections de septembre ayant été invalidés pour fraude par la commission électorale en Russie. Un troisième tour exceptionnel aura lieu en décembre et opposera un candidat du parti au pouvoir à un candidat communiste. Le célèbre américain donc avait obtenu la nationalité russe en août 2018 en tant que représentant du ministère des Affaires étrangères sur les liens humanitaires. Voilà, une petite anecdote qui illustre les imbroglios humanitaro-diplomatiques dans ces pays où la puissance diplomatique prend le pas sur l'ensemble des enjeux, y compris humanitaires. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté. Merci encore infiniment à Mathieu Bichet d'avoir été avec nous. Vous retrouvez l'émission sur le site internet en podcast de Radio Campus. Et à très bientôt pour une nouvelle Fabrique Politique. Thank you.
Hooray, I awake from yesterday. Alive, but the war is here.